Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. Vous êtes en direct à l'écoute des ondes de Radiola, à Dieu le Fille et Radio Saint-Féréol à Cré. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler avec vous d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, la radio. Comment on l'a fait? Avec qui? Quelle voix et quel message porte-t-elle? La radio et les sons qu'elle propose sont des moyens magiques, une sorte de baguette en forme d'antenne, agitée par certains de façon documentaire ou alors plus journalistique et dans tous les cas créative. À Radio Saint-Fé, Radio La et Radio Livre, dans les Baronnies, ce que l'on aime avant tout, c'est être un média local, radio, parce que ça nous engage à parler de là où l'on vit et à donner la parole et à apprendre à connaître nos voisins et nos voisines. On monte des projets aussi, on appelle ça parfois de façon pompeuse des projets de territoire. Et bien là, on a mélangé les territoires et c'est bien heureux. Tout est parti d'une idée, il y a un an et quelques, une idée, puis des rencontres, des institutions qui nous ont suivis, une grosse pincée de travail et de paperasse, un zeste de créativité et un projet local plus loin, un an après, il est là, le journaliste, enfin le presque journaliste parce qu'il est plutôt réalisateur sonore. Lui, son truc, c'est le documentaire radio, le documentaire de création, l'immersion dans le réel, l'enquête de mœurs avec micro. Nous sommes là aujourd'hui, Théo et Pauline, pour vous présenter Mehdi Aoudig, documentariste sonore, pour sa première semaine de résidence sur 3 territoires drômois. C'est une résidence de journaliste, on l'a appelé si loin, si proche. Il arrive ce matin d'un peu loin de Marseille. Mehdi Aoudig, bonjour et bienvenue. Mehdi, c'est votre première résidence en tant que réalisateur de documentaire sonore. Ça tombe bien, nous aussi. C'est notre grande première en tant que radio locale. On est un peu impressionnés et très heureux de vous accueillir chez nous. Alors, premier jour, premier contact, comment ça se passe cet atterrissage?
Eh bien, je me suis un peu perdu dans la montagne drômoise pour venir jusqu'à Diolfi, de La Roche-sur-le-Buis. Et c'était super agréable, en fait, de se perdre. Donc, je suis arrivé en retard. mais en tous les cas, c'était très agréable de se perdre parce que c'était un début d'immersion, en fait, sur ce territoire que je connais un peu pour des raisons personnelles. Et voilà, alors je voulais préciser que j'ai déjà fait une résidence. En fait, on avait déjà fait une résidence avec Arte Radio à Marseille. Et maintenant, je vis à Marseille. Donc, c'était il y a 9 ans. Et maintenant, je vis dans cette ville. Donc, peut-être que je vais vivre dans la Drôme bientôt. Je ne sais pas. On verra à la suite de cette résidence.
Alors, vous arrivez pour une période d'un an, 10 semaines de présence dans la Drôme. Donc, les Baronnies, Pays de Diolfi, Bordeaux et le Val-de-Drôme. 10 semaines d'action, d'éducation aux médias radio, des prises de son, des projections sonores, des rencontres avec différents types de publics. Vous nous avez proposé un projet qui nous a donné vraiment envie. On a eu l'impression que quand vous écriviez vos propositions, vous étiez déjà un peu ici, alors que vous vivez en ville, donc à Marseille. Mmh. Comment c'est possible, ça?
Je crois que c'est possible parce que, en fait, moi, j'ai toujours besoin, quand je pense documentaire, j'ai toujours besoin de cette idée du déplacement. Et en fait, il n'y a rien de mieux qui m'inspire que d'aller dans un endroit que je connais un peu ou pas beaucoup, ou qui, en tous les cas, qui éveille ma curiosité, et donc d'être complètement immergé. Donc c'est pour ça que cette résidence, effectivement, ça m'a intéressé pour ça. Bon, en plus, j'avais une petite connaissance, non pas des 3 territoires, mais surtout du territoire des Baronnies. J'avais déjà réalisé un documentaire à Buis-les-Baronnies. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a fait rêver tout de suite cette idée de me déplacer, quoi.
Et pourquoi vous avez choisi ça, cette résidence journaliste dans la Drôme? C'était aussi l'appel à projet qui vous a parlé ou...
En fait, j'avoue qu'il n'y a pas 36 propositions de résidence de journaliste sur une si longue période avec possibilité quand même de travailler au long cours. Donc, et puis, il y avait cette concordance qui faisait que ça se passait dans la Drôme, que je connaissais un peu la Drôme et que j'habite à Marseille. Et donc, ça m'intéressait. Et puis, j'ai un intérêt pour le milieu rural parce que c'est très loin de moi, quoi. C'est loin de moi. Enfin, disons que je connais un peu comme beaucoup de gens qui sont urbains. C'est-à-dire, je connais ces territoires plutôt en vacances. Et là, ça m'intéressait de les découvrir par un autre biais, quoi.
Comment vous l'avez découvert, justement, la radio ? C'est quoi votre premier souvenir de radio ?
Alors, si je prends vraiment mon premier souvenir de radio auditeur, c'est un truc assez clandestin qui se passait avec mon frère, puisqu'on était dans la même chambre, et qu'il y avait une chose qui s'appelait la dramatique de minuit sur France Inter. Et en fait, évidemment, ça se passait à minuit, donc on n'avait pas le droit de l'écouter. C'était le dimanche soir, donc le lendemain, on avait école. Et en fait, on l'écoutait de manière clandestine, tout doucement, dans le lit, parce que c'était des histoires qui faisaient peur. Et je pourrais pas dire exactement quel âge j'avais, mais je pense que j'avais autour de 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment ma première découverte de la radio, et particulièrement de la relation entre le fait d'écouter quelque chose et de se fabriquer des images, parce qu'à ce moment-là, on est dans le noir, évidemment, on n'allume pas la lumière, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire. Et ça c'est l'un de mes premiers souvenirs de radio en tant qu'auditeur.
Comment vous écoutez la radio maintenant en tant qu'adulte ?
Alors, je navigue beaucoup un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que là, les usages de l'écoute de la radio changent beaucoup. Donc maintenant, je me mets évidemment au podcast, qui est un peu un gros mot, mais qui est quand même une réalité d'usage en tous les cas, qui est donc le fait de télécharger soit des émissions qui ont déjà eu lieu à l'antenne, soit des choses qui ont été créées pour le podcast, puisqu'il y en a de plus en plus maintenant. D'ailleurs, ce matin, en venant, j'écoutais quelque chose qui avait été créé par France Inter, qui était un podcast natif qui n'est jamais passé à la radio. Et voilà, et en fait, maintenant, c'est plutôt de cette manière-là que je l'écoute, mais j'ai encore cette écoute du flux, particulièrement le matin. Je pense que je correspond vraiment à la moyenne des gens qui écoutent la radio, c'est-à-dire que le matin, je mets plutôt... Bon, moi, je suis plutôt matinal de France Culture, mais je mets une matinale, en tous les cas. Et puis après, les autres moments de la journée, quand j'ai des voyages, des choses... Des moments comme ça de flottement, je me mets dans une situation d'écoute qui sont plutôt des choses de l'ordre du podcast.
Vous êtes aussi un adepte de la formation, on va le voir plus tard avec Théo qui va vous poser des questions sur votre parcours, sur le documentaire sonore. Vous aimez la radiotransmission en fait. C'est quoi les aspects les plus importants à transmettre concernant la radio pour vous ?
Bah, je crois que c'est la question de l'écoute, assez simplement, cette question de l'écoute. Je pense qu'à la radio, c'est à peu près le seul endroit où on crée de manière très directe cette question de l'écoute. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'écouter ce qu'on diffuse. Et moi, j'adore cette position d'écoute pour moi-même et pour les autres, parce que je pense que l'écoute, c'est quelque chose, contrairement au regard, c'est quelque chose de critique, quoi. Le regard, pour moi, est quelque chose de l'ordre de la vérité que l'écoute n'a pas nécessairement. L'écoute, ça appelle l'imaginaire, évidemment, mais aussi l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on dit rarement qu'on croit ce qu'on nous dit. Par contre, on dit qu'on croit ce qu'on voit. Oui. Il y a un proverbe qui dit qu'on croit ce qu'on voit. Mais ce qu'on écoute, non, on le met toujours en doute. Et ça, j'aime bien, cette idée-là.
On va écouter un court extrait, avant de passer la parole à Théo, de Mon Père Pompidou, une création que vous avez faite où vous exprimez votre rapport avec votre père. Peut-être, on fait confiance à l'écoute, on lance direct.
Ok.
Dans les années 70, mon père travaillait dans le bâtiment. Il était chauffeur-livreur en électricité. C'est comme ça qu'enfant, je remplissais les fiches de renseignement à l'école. Et mon père, il adorait les chantiers. Chaque jour, il y récupérait des objets improbables. J'ai encore une lampe de chevet dont il me disait qu'elle venait du trou de Beaubourg. C'est le seul objet que j'aimais bien. Les autres objets, ils finissaient tous à la décharge. Un endroit où il aimait bien m'emmener aussi. Il adorait tellement les chantiers qu'à chaque fois qu'on passait par la rue Beaubourg, on s'arrêtait pour regarder le trou des travaux du futur centre Pompidou. Moi, je ne comprenais rien. Je voyais de la terre, des machines, de la ferraille. Et je détestais passer des heures à écouter les explications paternelles. Et puis, vers la fin du récit, il me glissait qu'il avait fait des livraisons sur ce chantier. Des bobines de fil électrique pour l'éclairage du parvis. Il était très fier. Aujourd'hui, je pense que mon père, c'est un peu la lumière du parvis devant Pompidou.
Alors voilà, on vient d'écouter un extrait du parvis de mon père qu'on peut retrouver en intégralité sur arteradio.com et qui avait été fait à l'occasion d'une commande du Centre Pompidou sur lequel j'avais choisi de travailler sur le parvis qui se trouve devant Beaubourg.
Donc Mediaudig, un documentaire parmi tant d'autres que vous réalisez, donc c'est votre spécialité, vous l'avez dit, on vient de l'entendre, le documentaire sonore. C'est un format qui est encore parfois assez méconnu du public. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce format radio, du format documentaire ?
Alors, je pense que l'une des choses principales, c'est le fait de sortir avec ses micros. C'est-à-dire qu'en son, on a parfois l'habitude de vouloir neutraliser les espaces acoustiques, ne pas subir l'ambiance extérieure et ainsi de suite. Bon, bah, en documentaire, on choisit justement de prendre les studios qui sont à l'intérieur de prendre les micros qui sont à l'intérieur du studio et d'aller à l'extérieur pour justement non pas subir, et des fois on le subit aussi ce réel, mais pas faire histoire avec ces espaces acoustiques et les gens qu'on rencontre, quoi. Voilà.
Okay. Ce qui fait la particularité aussi parfois la magie de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image, ça aussi on l'a dit. Pourtant, Orson Welles disait à son époque qu'à la radio, l'écran est encore plus grand qu'au cinéma. Alors, est-ce que vous partagez son point de vue, premièrement, et comment est-ce qu'on parvient à donner à voir par le seul travail du son ?
Alors, bah oui, effectivement, je suis absolument d'accord avec Orson Welles. C'est effectivement...
Bon point. Il est content.
Voilà, je pense qu'il doit être assez content que je sois d'accord avec lui. Je pense que depuis le temps, il attendait quand même une approbation de ma part. Mais je pense que... En même temps, c'est vrai, et en même temps, moi j'ai l'habitude de dire qu'en son, en fait, il y a un cadre comme en image, mais ce cadre, les bords sont plus flous. Et en fait, c'est sur ce flou qu'on joue. C'est-à-dire qu'en son, on est toujours en immersion. On est toujours dans ce qui nous entoure, bien qu'à l'image, on exclut presque l'intégralité du monde, puisque le cadre qu'on donne à voir, il est quand même très réduit. Par contre, il a une puissance, effectivement, le cadre. Photographique ou visuel, il a une puissance de, je dirais, pour être un peu polémique, un peu une puissance de vérité, de soi-disant vérité, sauf que c'est une vérité qui exclut beaucoup de choses. Alors que dans le sonore, si vous avez une autoroute qui passe à côté de là où vous êtes en train d'enregistrer, vous ne pourrez pas faire croire à l'auditeur qu'il n'y a pas d'autoroute, quoi. En image, c'est beaucoup plus facile. Alors comment on donne à imaginer les choses, à créer des images aux gens ? Je crois qu'il y a beaucoup la question de rythme, en fait. C'est-à-dire que la question de rythme en son, elle est évidemment essentielle. Et donc ce jeu entre les silences, le signifiant, l'impression, tout ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'en documentaire sonore, il va falloir accumuler des matières assez différentes pour pouvoir jouer sur le montage et créer du rythme. Et donc ce rythme-là, en général, va être le ressort de la narration et de la possibilité de créer de l'imaginaire. Quoi.
Parmi cette matière, il y a aussi une approche, notamment une approche sensible que vous dites privilégiée. Alors c'est quoi une approche sensible du son ?
C'est vrai. Enfin, je dirais qu'on m'a, enfin, on m'a presque collé ça, sans spécialement que j'en ai...
C'est pas vous qui le revendiquez.
C'est pas que je le revendique pas, c'est que... non, je suis content du qualificatif, mais j'ai pas la volonté de le faire quand je le fais. Je me dis pas, tiens, je vais avoir une écoute sensible, parce que je saurais pas définir ce que c'est qu'une écoute sensible.
Et un rapport au monde est toujours sensible, enfin, ça se base sur les sens, le son.
A priori, oui. Mais il y a des gens qui abordent le monde de manière, même en documentaire, qui abordent le monde de manière un peu plus clinique, quoi. Un peu plus froide, un peu plus distante, et ainsi de suite. Moi, je considère que je partage un monde avec d'autres gens, et que quand je suis en documentaire, j'essaye de plus ou moins, même si je suis très discret dans mon documentaire, dans le sens où on ne m'entend pas spécialement, mais j'essaye quand même de faire partie de ce qui se passe, en fait. Mmh. Et il y a cette notion d'être ici, maintenant, tout de suite, et ça se passe maintenant, et en enregistrement, c'est extrêmement important, quoi. Mmh. Et du coup, c'est peut-être ça qui donne effectivement cette écoute sensible. Et je pense que j'ai une chance, c'est que... La chance que j'ai, c'est que je suis un auditeur moyen. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement un auditeur très aigu, très spécialiste, ou quand j'écoute quelque chose, j'ai l'impression d'être comme monsieur ou madame tout le monde dans sa cuisine. Mmh. Et du coup, je pense qu'en enregistrement, ça... Je pense que si j'ai une force, c'est celle-ci, quoi. C'est, je sais à quel moment ma curiosité va être élevée, va être éveillée au même endroit que l'auditeur, souvent, ou que beaucoup d'auditeurs. Et du coup, ça m'aide à faire les choses, à quand on est perdu dans un montage ou des choses comme ça. J'essaye de me remettre dans cette situation d'être un auditeur lambda qui écoute de manière un peu flottante. Et c'est ça qu'il y a de fort dans l'écoute, c'est que contrairement au visuel qui vous mobilise de manière presque entière et qui vous immobilise même, l'écoute, ça peut être flottant, on peut être attiré par quelque chose, par un rythme, par un grain de voix, par une ambiance, par quelque chose qui fait qu'on va rentrer dans l'histoire, ou alors on peut être un peu plus distant. Ça n'empêche pas que les deux formes d'écoute sont quand même deux écoutes qui dans lesquelles il n'y a pas de hiérarchie. On n'est pas obligé d'écouter religieusement un documentaire. Moi, ce que j'ai préféré, par exemple, dans les documentaires que j'ai faits, c'est par exemple les gens qui me disent « j'étais dans ma bagnole, et puis j'ai mis France Culture, et j'ai entendu, et puis d'un seul coup, j'ai compris que c'était toi qui avais fait le truc. » Ah, et ça, c'est un miracle que j'aime bien aussi, qui existe un peu moins dans le podcast, quoi.
Ça, c'est les petites histoires d'auditeurs. Vous accordez aussi beaucoup d'importance aux ce qu'on appelle les petites histoires, ou ce que Pierre Michon appelait les vies minuscules dans votre, dans votre travail. Alors, qu'est-ce qui vous anime vraiment dans ces petites histoires, et comment est-ce que vous choisissez vos sujets ?
Alors, en fait, je choisis les sujets, je veux dire... Enfin bon, il y a Kay Mortley, par exemple, qui a l'habitude de dire il n'y a pas de sujet, en fait. Il n'y a que des gens qui font des choses, mais le sujet n'existe pas en soi. Et c'est vrai qu'un sujet, ça n'existe pas en soi. Si on dit je vais faire quelque chose, je ne sais pas, sur l'agriculture biologique, on n'a rien dit, quoi. On n'a rien dit. À partir du moment où on dit ça, bon, il y a aussi toute l'empathie, et puis l'empathie, la distance, l'altérité qu'on va avoir avec le sujet, qui vont évidemment énormément intervenir sur la manière dont on fait, quoi. Par exemple, si je prends l'exemple de Poudreuse dans la Meuse, moi j'avais à la fois une empathie avec le sujet qui était la question de la consommation de la drogue, parce que c'était quelque chose dans lequel j'ai été baigné dans ma jeunesse, parce que je vivais en banlieue parisienne et que c'était les années 80 et qu'il y avait de l'héroïne partout. Et quand j'ai découvert ce sujet, entre guillemets, en Meuse, ça m'a ramené à quelque chose de moi, quoi. Et puis la rencontre d'un personnage aussi, qui était le procureur de Verdun.
Alors, Poudreuse dans la Meuse, pardon, on vient de le citer, on aura l'occasion de l'écouter justement demain à La Paillette Monjou, juste à côté de Dieulefi. Et jeudi au cinéma L'Éden à Cré pour la soirée de lancement de la résidence de journaliste. Je propose qu'on en écoute tout de suite un petit extrait, et puis on peut en parler rapidement sans le dévoiler derrière.
C'est l'horreur, la Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. Vous ne croyez pas ? C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps.
cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près 2 heures, 2 heures et demie, donc des Pays-Bas. Eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne.
Donc voilà, Poudreuse dans la Meuse, un très beau documentaire sur les ravages de l'héroïne dans le département de la Meuse, pour lequel, Mehdi, vous avez remporté le prix Europa et qu'on aura la chance d'écouter demain, je le redis, à Montjoux-la-Paillette, à côté de Dieu le Fit, et jeudi au cinéma L'Éden à Cré.
À 18h, les deux soirées.
À 18h, les deux soirées, ce sera suivi du film de Nicolas Philibert, La maison de la radio. Alors sans trop nous le dévoiler, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où est parti le sujet de documentaire avant qu'on revienne sur ce sujet de documentaire, avant qu'on revienne rapidement sur la résidence?
Alors il est parti d'une chose, c'est que moi je suis aussi ingénieur du son, et du coup je faisais l'ingénieur du son pour un film institutionnel sur la prévention de la drogue, et dans nos pérégrinations on a été à Verdun et on est arrivé dans le bureau du procureur qu'on a entendu là dans l'extrait au début et qui nous recontextualise un peu le sujet. Et en fait, il avait les pieds sur la table, il fumait des clopes et il avait une grande affiche des Tontons Flingueurs derrière lui. Et il m'a beaucoup plu, quoi. Et du coup, j'ai été le voir après le tournage qu'on avait fait. Et je lui ai demandé si éventuellement ça serait possible de faire un documentaire radio sur ce sujet-là, sans savoir du tout ce que j'allais faire. Mais en tous les cas, les deux choses qui m'ont poussé, c'est cette question de la consommation de la drogue en milieu rural, que je ne connaissais pas et qui résonnait de manière personnelle, puisque moi-même, je n'en avais pas consommé, mais en tous les cas, j'étais entouré de beaucoup de gens. C'était un quotidien très, très présent, même quand on était enfant en banlieue parisienne dans les années 80. Et puis le fait que ce personnage, il me paraissait sympathique, quoi. Il avait quand même un truc de procureur qui n'était pas complètement classique.
Mehdi, on va parler pour les minutes qui nous restent du contenu de la résidence. On parle dans cette résidence d'éducation aux médias, envers les jeunes, pour les adultes aussi. Vous, on le disait tout à l'heure, vous faites beaucoup de formations, mais plutôt de type professionnel. Comment vous abordez cette résidence et quel type d'actions sont déjà... Tout n'a pas été, et puis on va en parler aussi avec Théo, qui est coordinateur de la résidence sur les trois territoires, mais tout n'est pas encore fixé. Mais quels sont le type d'actions qu'on va pouvoir faire, auxquels les habitants vont pouvoir participer, et comment?
Bon, en tous les cas, alors moi ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de moi, de mon point de vue et de ce dont j'ai envie, de ce qui me motive là-dessus. Et ce qui me motive particulièrement, c'est cette question de vous rencontrer, de rencontrer les gens,
merci,
sur ces territoires. et surtout d'une chose qui est quand même très rare dans mon travail de documentariste, c'est de travailler collectivement. C'est-à-dire que, évidemment, peut-être que j'ai une pratique de documentaire, peut-être que j'en fais depuis un certain temps et que du coup, il y a des choses que je sais. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans ces moments-là, c'est vraiment cet échange. Et du coup, comme on est en résidence pendant un an, qu'il va y avoir des groupes médias qui vont être créés, où on va créer des documentaires ensemble, qu'il va y avoir des interventions dans les écoles, qu'il va y avoir une intervention avec des gens du PNR, qu'il va y avoir un petit peu tout ça. Ça veut dire que ça va brasser beaucoup de gens et on va beaucoup échanger sur cette question des médias. Et en fait, c'est quelque chose que je ne fais jamais dans mon quotidien, puisque mon quotidien, c'est d'aller tout seul au fin fond de la Meuse ou ailleurs et d'essayer tant bien que mal de rencontrer des gens qui veulent bien me parler. Et puis après, je me retrouve avec mes rushs et puis je dérush tout seul et puis après, je monte tout seul. Et du coup, ces aventures aussi un peu plus collectives, Elles sont aussi pour moi, de mon point de vue, vachement plus riches, puisque j'explose le cadre dans lequel je travaille d'habitude, quoi.
Non, Mehdi, vous n'êtes pas tout seul. Nous, si, médias locaux, nous serons les traits d'union vers les habitants du territoire.
Très bien.
Alors, au mois de février, deuxième semaine des vacances, il y a ce fameux séjour média où, pour la première fois, je crois aussi, trois territoires. Enfin, on va proposer aux jeunes de trois territoires de se retrouver pour passer une semaine avec vous. En gros, Mehdi, Théo, ce séjour, il est en train de se monter. On en est où? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller où? Donnons envie aux jeunes qui ne sont pas encore inscrits de s'inscrire.
Alors les trois territoires, on le redit, mais c'est les Baronnies, le Pays de Dieulefit-Bordeaux et la vallée de la Drôme avec Radio Saint-Fé. Alors ce sera la première semaine de vacances d'hiver, donc du 24 au 28 février. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes de différents territoires se rencontrent autour de la radio, puis qu'il y ait tout un travail de production avec Midi. On a commencé à en parler ce matin et tout ça est en train de se mettre en place. Ça se passera à Dieulefit, puis à Pont-de-Barré, dans un très beau lieu qui est la base scout de Pont-de-Barré.
Voilà, pendant ces jours médias, ça va être vraiment le moment de se retrouver complètement en immersion tous ensemble et pour créer des choses. Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur la trame, mais en tous les cas, pour l'instant, sous forme un peu de documentaire et du fait d'aller voir les gens avec des micros et puis de récolter des histoires.
On vient de recevoir un texto, parce que c'est du direct, hein, c'est notre premier direct dans le studio de Radio là, qui dit « Non, Mehdi, t'es pas seul ».
Ah, merci,
donc,
c'est gentil.
Voilà, on n'est pas les seuls à penser ça.
Il y a déjà de l'accueil. L'identité de cette personne.
Non, ce sera caché, rester secret. Alors du coup, j'ai un peu décroché. Ouais. Mais on peut parler aussi des ateliers documentaires. Ça, c'est à destination des adultes. Sur chaque territoire, on va proposer à des gens de travailler le documentaire et ensuite peut-être les mettre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors l'idée, c'est que sur les trois territoires, on constitue des groupes que je vais voir trois fois deux jours, c'est-à-dire en fait à différentes étapes. Entre ces sessions de deux jours, il y aura des moments où les gens devront enregistrer et à chaque fois, on se retrouve collectivement pour commenter et faire aller un peu plus loin encore la matière documentaire que chacun aura récoltée ou que les gens prévoiront de récolter, quoi. Pour finalement arriver, alors si on arrive à réunir tous ces gens, ça veut dire qu'en gros, on aura 12 productions puisque ce sera des productions faites en binôme. Et donc, on se retrouve dans un ultime jour collectif avec les trois territoires pour pouvoir à la fois diffuser, finaliser les productions qui auront été faites à ce moment-là.
Théo, qu'est-ce qu'il reste à faire pour la résidence ?
Je crois qu'on a parlé des deux grands axes. Il y en a un troisième dont on a peu parlé, c'est celui de l'éducation aux médias et de l'intervention dans les écoles et les collèges. Donc ça commence dès demain au Pouet-Laval et puis ça va continuer tout au long de l'année. Alors là, Mehdi, l'idée, c'est aussi de parler de ton métier, de votre métier, pardon, et puis de faire de l'éducation aux médias. Alors qu'est-ce que c'est que l'éducation aux médias et comment est-ce que vous espérez l'amener au sein de ces interventions ?
Moi, je crois que l'éducation aux médias, je pense que par l'intermédiaire de la radio, c'est bien parce que c'est, comme je le disais, l'écoute, c'est quelque chose de critique et que c'est quelque chose, effectivement, pour moi, l'éducation aux médias, c'est essayer de décrypter d'où vient l'information, pourquoi elle vient de là et comment elle est réceptionnée par les gens qui la perçoivent, quoi.
Merci Mehdi. Pour le séjour aux médias, Théo, on peut s'adresser, du coup on est soutenu par les communautés de communes, on s'adresse à Radio Là directement
Soit directement aux communautés de communes de chaque territoire, la mairie de Nyons, donc pour le service jeunesse pour côté Baronnie, le service jeunesse de la communauté de communes de Dieulefit-Bordeaux et Radio Saint-Fé. Et sinon, une adresse, une seule, c'est siloinsiproche@radiola.media. Donc on peut s'inscrire directement à cette adresse auprès de Radiola.
Merci Mehdi, on est ravis.
Merci à vous de
merci d'avoir pu faire un peu plus ample connaissance. On se réjouit aussi de vous retrouver régulièrement cette année, que ce soit ici dans les studios de Radio Là, parce que maintenant on sait faire du direct, et de Radio Saint-Fé ou en tournage avec les habitants et les habitantes du territoire. Donc les premiers rendez-vous publics cette semaine, mercredi, ça se passe à la salle communale de Montjoux-la-Payette à 18h. Et jeudi 12, on pourra vous rencontrer au cinéma L'Éden de Cré. Un repas est prévu sur place. Et puis il y a aussi la page Facebook, Si loin si proche. Vous pouvez aller vous abonner pour suivre un peu tout ce qui va se passer, parce qu'il va se passer plein de choses très différentes et disparates. Et le site, la page sur le site de Radiola, radiola.media/siloinsiproche. Mehdi, en deux mots, quel souhait radiophonique on peut vous faire pour cette résidence ?
De créer des choses magnifiques avec les gens que je vais rencontrer.
Je crois que ce souhait sera exaucé. Merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Radiola.media.